Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des hommes dont la vie n'est pas banale. Mon invité de ce matin fait le tour du monde sans bouger de son port d'attache, rencontre des dizaines de personnes de nationalités différentes chaque jour, des hommes pour la plupart, qui s'ils ne sont pas migrants, comprennent ce que vivent ces derniers 10 hommes, qui font parfois deux fois le tour de la planète avant d'aller embrasser leurs femmes et leurs enfants comme ils aiment à le dire. Arnaud de Boissieu est aumônier des marins au long cours. Aumônier de ces marins qui accostent notamment en France pour nous livrer sur un plateau, si je puis dire, tout ce que nous consommons des marins qui sont aux avant-postes de l'économie mondialisée, des témoins invisibles que je vous propose de découvrir ce matin. Arnaud de Boissieu, aumônier des marins au long cours, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec ce dernier, vous êtes donc prêtre de la Mission de France, on découvrira ce que c'est que la Mission de France, et donc aumônier des marins au long cours en ce moment au port de Casablanca. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage, le co-auteur d'un ouvrage intitulé « Marins, lettres de mer et paroles de terre » paru aux éditions Marine. Bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à terre pour cette émission Vivante Église. Vous êtes de passage à Toulouse à l'occasion de la semaine de l'unité des chrétiens. On réexpliquera pourquoi un petit peu plus tard dans l'émission et puis on donnera le lieu et l'heure du rendez-vous. Votre mission, votre métier donc n'est pas banal, Arnaud de Boissieu, et à travers vous, on va découvrir un pan de notre vie. C'est en tout cas ce qui m'a frappé en commençant cette émission. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence d'abord par faire un petit peu plus connaissance. Si vous deviez malgré tout, en deux, trois mots, nous présenter la mission peu banale que vous avez, avant qu'on voit un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez et ce qu'est la Mission de France, comment vous présenteriez votre mission ?
Alors, je rends visite aux marins au long cours qui sont en escale, ce que j'ai fait pendant 12 ans au port de Marseille-Fos et que je fais maintenant au port de Casablanca. C'est-à-dire que quand les bateaux entrent au port, il y a une 15-20 bateaux en permanence au port de Casablanca, je monte sur les bateaux et pour rendre visite aux marins, leur rendre quelques services s'ils le désirent et surtout créer le lien qui leur permet d'entrer en contact avec leur famille puisqu'ils passent très longtemps à bord, souvent sans pouvoir descendre du bateau pendant des mois et des mois.
On peut aussi, en introduction, pour donner l'eau à la bouche des auditeurs, ça va vous paraître un peu banal, mais quand on n'en est pas familier, c'est vrai que c'est impressionnant. Ce sont des véritables monstres des mers que vous visitez. Je ne parle pas évidemment des marins, mais j'ai lu que ces monstres des mers pouvaient transporter 5 à 10 000 conteneurs d'un seul coup quand un Airbus A380 ne pourrait en contenir que 3, c'est ça ?
Oui, alors il faut réviser vos chiffres. Les plus gros bateaux, maintenant, on est à 22 000 conteneurs. Oui, ce qui est dans un bateau, un gros bateau, on pourrait considérer qu'il faut des milliers d'avions pour transporter ce que transporte un bateau. Il y a une autre image que je prends souvent, prenez la cathédrale de Toulouse ou d'ailleurs. Non seulement elle pourrait tenir dans un bateau, mais on pourrait en mettre deux dans un bateau, si on pouvait la transporter d'un seul bloc.
Oui, donc voilà, ce sont des géants, parce que le pont est peut-être pas tout en haut de la nef, mais en tout cas au moins aux deux tiers. Arnaud de Boissieu, alors votre nom Arnaud de Boissieu dit un petit peu aussi votre origine familiale, c'est pas... un homme ne se résume pas à ses racines, mais je me disais que ça pouvait être intéressant. J'ai vu que vous étiez d'une famille de militaires, peut-être oui. Même de marins. Il y a eu des généraux dans votre famille, non ?
Pas marins. Oui. Officier. Mon père était officier supérieur, oui.
Voilà, vous aviez un parent qui était un lointain cousin aussi du général de Gaulle. Dites-nous.
Un lien qui est lointain, par alliance.
Dites-nous un peu quelques mots quand même de votre famille, de votre biotope. Prêtre de la Mission de France, quand on s'appelle de Boissieu, ça doit être un peu surprenant, non ?
Alors, je ne sais pas si c'est surprenant. Oui, ma famille est d'origine lyonnaise. famille nombreuse, famille de militaires. Moi, mes frères et sœurs sont nés dans différents pays du monde. Moi, j'ai passé ma jeunesse essentiellement à Paris, où j'ai fait des études d'informatique d'abord, physique et informatique dans un temps ancien. Donc on était un petit peu loin de la mission de France et des marins. Et alors, une famille chrétienne solide.
On ne va pas refaire tout votre parcours. Parlez-nous un petit peu de la mission de France. Donc vous êtes prêtre de cette mission de France. La mission de France, c'est donc une prélature, c'est un diocèse, hein, c'est ça?
La mission de France, c'est un diocèse sans territoire. Le seul territoire, c'est la paroisse de Pontigny, dans l'Yonne. Nous sommes donc prêtres diocésains avec un évêque, actuellement qui est aussi évêque de Sens-Auxerre, le père Hervé Giraud. Nous sommes prêtres diocésains et toujours avec prêtés à d'autres évêques. En termes ecclésial, prêtre fidei donum, c'est-à-dire que...
Vous êtes comme en mission à l'intérieur même de la France, en fait, c'est ce qu'il faut
entendre. Nous sommes missionnaires en France. La mission de France va normalement là où l'Église est peu ou pas attendue, la foi là où on ne l'attend pas. Donc ça peut être des prêtres au travail, souvent, sur des chantiers. Il y en a un qui est postier, il y en a un qui sont maraîchers, pour essayer le mot du cardinal Suard, qui a fondé la mission de France dans les années 40, abattre le mur qui sépare l'Église de la classe ouvrière. Alors bon, maintenant on dirait peut-être plus classe ouvrière, plus largement, mais aller là où on... Ce n'est pas l'Église qui ouvre ses portes, mais l'Église qui s'engage à aller là où elle n'est habituellement peu présente.
Voilà, c'est là qu'officient donc les fameux prêtres ouvriers dont on a beaucoup parlé un temps dans l'Église. Peut-être que la jeune génération ne voit pas ce que c'est. C'est donc ces hommes qui avaient choisi d'avoir un travail au milieu des classes dites populaires pour justement franchir ce fossé que vous décrivez et que décrivait le cardinal Suard, donc archevêque de Paris, fondateur donc de la mission de France. Donc être présent auprès de ceux qui sont loin de l'Église, rechercher une intelligence et une expression de la foi chrétienne, ai-je lu, et promouvoir la communion ecclésiale, telles sont donc les missions, les grandes missions de la mission de France. Alors vous avez commencé par quelques missions en Afrique, on peut en dire un mot quand même, ça dira un petit peu le type d'homme ou le type d'apostolat auquel vous êtes habitué, il faut avoir le cœur bien accroché. Racontez-nous vos premières missions en Afrique dans deux pays différents.
Voilà, alors la mission de France est essentiellement présente en France. Nous sommes essentiellement missionnaires en France. Quelques-uns sont fidei donum un peu plus loin que les frontières. Moi, j'ai été d'abord 7 ans au sud Cameroun, dans la forêt tropicale, où j'ai travaillé avec des paysans, on appelait des planteurs, migrants, c'est-à-dire qu'ils allaient plus loin dans la forêt pour chercher des nouvelles terres. Ils quittaient une zone surpeuplée pour aller dans un vaste secteur. Alors, dans la forêt vierge...
Des migrants légaux, illégaux?
Non, tout à fait légaux. Dans le pays, ils n'avaient plus de terre, parce qu'il y a une surpopulation dans la région nord de Yaoundé, dans la Lekié, et donc ils s'enfonçaient plus loin dans la forêt pour créer des plantations, essentiellement cacaoyers et bananiers.
Donc vous avez
avec 300 arbres à l'hectare, pour chercher où ils étaient implantés, voilà. Et j'avais la surface d'un département français dans lequel je circulais sans forcément beaucoup de pistes pour aller à leur recherche et les aider à structurer des nouveaux villages et à consolider leurs implantations.
Alors après, vous avez été en mission en Tanzanie. En Tanzanie, vous avez été auprès des enfants des rues. Racontez-nous aussi en quelques mots un petit peu cet apostolat qui a été le vôtre.
Alors, Tanzanie, c'est l'Afrique de l'Est, sud du Kenya, nord du Mozambique, sur l'océan Indien. Pays extrêmement pauvre, au moins à l'époque, avec sécheresse endémique. Et donc, les problèmes essentiels sont les problèmes de survie. Donc, il y avait des enfants des rues, enfants et jeunes des rues, bah, essayer de faire ce qu'on fait avec eux, un programme de réhabilitation de façon à les aider à pouvoir revenir à la vie, à une vie plus normale. Voilà. Donc, dans un pays où la langue nationale est le Swahili, donc on
que parle, vous avez appris en partie.
Soit le Swahili, voilà, oui, c'est ma deuxième langue. Je suis complètement bilingue en Swahili. On entre dans un autre univers culturel quand on change de langue.
Alors, comment est-ce que vous avez atterri après à la mission de la mer, puisque la mission de la mer, c'est cette mission en France qui fait que dans chaque port de France, il y a un aumônier, il y a quelqu'un qui accueille les marins. Donc vous avez été 12 ans à Marseille, et puis maintenant vous avez été nommé donc à Casablanca. Alors c'est peut-être pas dans le cadre de la mission de France, mais vous êtes aumônier donc du port de Casablanca au Maroc. De l'un à l'autre, c'est quoi ? C'est la mission de France qui vous a dit « allez hop, tu vas là ?»
Alors la mission de France me propose d'aller là, on va pas m'obliger normalement. C'est un dialogue avec notre évêque qui propose une mission. C'est dans le cadre de la mission de France, aller dans des secteurs où l'Église n'est pas spontanément présente. Quand j'explique qu'il y a à Marseille ou à Casablanca, c'est à peu près pareil, il y a en permanence, chaque jour, au moins 300 marins du monde entier qui sont en escale. Voilà une population que, en général, les gens ignorent complètement.
Parce qu'en plus, on verra, on découvrira, ils sont très loin de la ville, parfois ils ne sortent pas de leur bateau, ils sont un peu relégués au bout du monde. Hein, c'est...
Voilà, et les ports, pour des questions de sécurité, sont de plus en plus fermés. On n'entre plus dans un port sans une autorisation particulière.
Donc on en sort difficilement aussi.
Et on en sort plus difficilement. Donc ils sont extrêmement isolés. Voilà, un lieu typique où la mission de France essaie d'être présente, puisque pour un diocèse, c'est souvent quelque chose de difficile d'avoir des prêtres ou des chrétiens, ou des laïcs aussi. Hein. Dans les foyers d'accueil, ils travaillent ensemble pour pouvoir entrer et entrer en contact avec ces hommes et leur apporter quelque chose au nom de l'Église.
Alors aujourd'hui, vous envoyez des lettres depuis Casablanca, j'en ai lu quelques-unes, et dans une lettre, je crois que ça devait être la première année, vous avez pris du service à Casablanca, où vous n'aviez pas été encore autorisé à rentrer dans le port, et vous aviez fêté Noël sans pouvoir rejoindre les marins, et on sentait que votre cœur de prêtre était attristé par ça. Ça dit vraiment aussi combien vous accueillez, enfin l'Église accueille en votre nom tous ces hommes qui viennent des quatre coins du monde. On verra ça un peu plus tard après la première pause musicale. Parlez-nous un petit peu de la mission de la mer avant qu'on fasse cette première pause. Cette mission de la mer, probablement que très peu de gens la connaissent. Que c'est que cette mission de la mer ? Quel est son rôle ?
La mission de la mer en français, au niveau international, on parle de Apostolatus Maris ou Stella Maris. Au Vatican, nous dépendons du dicastère des migrants.
Stella Maris, Stella c'est étoile, non ?
Oui, étoile de mer, Marie et l'étoile de la mer. Voilà, c'est ça. Mais donc... on doit être présent dans je ne sais pas combien, peut-être 200 ports du monde. Je ne connais pas le nombre de pays. Mais un souci de l'Église d'être présente là où des hommes sont au travail et souvent loin des églises plus organisées.
Combien de ports en France avec des responsables de la mission de la mer ?
Alors en France, compte tenu de la laïcité, il existe des foyers des marins qui ne sont pas forcément de la mission de la mer. Voilà. La mission de la mer est directement le réseau catholique. Les foyers des marins existent dans 18 ports de France, pratiquement partout on peut dire.
Alors vous disiez donc que ça dépendait au Vatican du dicastère ?
Alors, je ne sais plus le nom parce qu'il a un nom à rallonge, oui. Il est long comme ça. Mais en gros, du dicastère des migrants. C'est une population de migrants.
On va faire une première pause et puis on vous retrouve tout de suite, Arnaud de Boissieu, pour découvrir davantage justement. Vous avez une expression pour cela. Les marins, c'est le sang de l'économie mondialisée. C'est un peu l'envers du décor de notre monde, du monde dans lequel nous vivons, comme des serviteurs invisibles sans qui aujourd'hui peu de choses se feraient. Je rappelle le titre de votre livre, Marins, lettres de mer et paroles de terre, dans lequel on va se plonger dans quelques instants, paru aux éditions Marines.
Emmanuel Pella.
Arnaud de Boissieu, aumônier des marins au long cours, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On prend le large ce matin avec vous, vous êtes prêtre de la Mission de France et aumônier donc des marins au long cours aujourd'hui dans le port de Casablanca, auteur d'un ouvrage « Marins, lettres de mer et paroles de terre » paru aux éditions Marines. Arnaud de Boissieu, donc, vous allez nous emmener avec vous, on va passer les sas de sécurité puisque vous nous disiez avant l'émission qu'aujourd'hui les ports, on n'y rentrait plus du tout aussi facilement que cela. J'ai lu dans la correspondance que vous avez publiée que les États-Unis pour ça étaient devenus aussi un peu un paroxysme ou un exemple paroxystique un peu des contradictions contemporaines où on rêve, les marins rêvent d'aller aux États-Unis et puis souvent ils sont bloqués dans les ports tellement les mesures de sécurité sont importantes. Avant qu'on parle de ces marins, 80% ai-je lu sous votre plume du commerce mondial et maritime. Parlez-nous un peu de cette réalité.
Oui, en 80% ou même 90%, le commerce mondial est transporté par bateau. Tous les produits pétroliers par bateau, évidemment, mais aussi tout ce qui est en acier. Le charbon peut venir d'Australie, Le minerai peut venir de Colombie, la bauxite vient de Guinée. Un moindre téléphone portable, non seulement est fabriqué probablement en Chine ou au Vietnam, mais les composants ont fait deux fois le tour de la planète. Sans compter, selon les pays, même une partie de la nourriture. À Casablanca, je vois du blé qui arrive de partout dans le monde, du Canada, de l'Ukraine, d'Argentine, du sucre qui arrive du Brésil, etc.
Et vous dites même dans le etc., il y a aussi les déchets.
Les déchets éventuellement, sont transportés les aussi. Voilà.
Alors, un bateau, c'est donc 5, 10 000, voire 15 000 conteneurs. On disait ça au début de l'émission. Je le rappelle, quand un A380 ne peut contenir que 3 ou 4, c'est dire les monstres des mers. Vous dites que c'est un commerce qui marche bien, c'est un commerce florissant, parce que, alors vous prenez une échelle, une paire de chaussures qui vient de Chine, à transporter depuis là-bas, ça coûte 30 centimes d'euros, c'est ça ?
Voilà. Oui, le prix du transport maritime dans les objets courants est pratiquement négligeable, justement, du fait de la taille, des bateaux. Donc, on ne s'en rend pratiquement pas compte. 60% de ce que vous achetez en grande surface en France, hors nourriture, arrive par bateau de l'autre bout de la planète.
Alors avant qu'on parle des marins, j'aimerais que vous nous parliez de la réalité de ce monde apparemment ultra-libéralisé, quand on regarde ça rapidement comme je l'ai fait. Voilà ce que j'ai compris. Ces bateaux qui tournent autour de la planète, qui font donc plusieurs fois le tour du monde, ils sont propriétés pour beaucoup de grands groupes financiers.
Oui.
Un manager est nommé à la tête du bateau, qui lui-même fait appel à des sociétés de main-d'œuvre, donc on peut imaginer comme des sociétés d'intérim, et puis se retrouve dans les bateaux des marins qui viennent du monde entier parfois, qui sont comme des mercenaires des mers, dites-vous. De prime abord, on se dit quel monde de fou.
Alors, je ne sais pas si c'est un monde de fous, mais c'est la réalité du commerce international aujourd'hui. Le moindre objet met en œuvre des compagnies à différents niveaux dans 5, 10 ou 20 pays. On peut rajouter les assurances, on peut rajouter un tas de choses. C'est extrêmement complexe. Il n'y a plus de lien direct, sans compter alors les pavillons de complaisance.
Alors dites-nous un mot des pavillons de complaisance, allez-y. Qu'est-ce que c'est qu'un pavillon de complaisance ?
Alors c'est un pavillon qui offre... Donc tout bateau doit être immatriculé dans un pays, et des pays proposent des immatriculations, en général à des prix intéressants, et sans qu'il y ait de lien entre l'armateur et le pavillon.
L'armateur, c'est le propriétaire.
L'armateur, c'est le propriétaire.
Peut être américain.
Voilà.
Mais le bateau, lui, est aux îles Panama, quelque part. Son pavillon est les îles Panama.
Voilà, c'est ça. Tous les pays développés utilisent ce système de façon plus ou moins sophistiquée.
Alors pourquoi, expliquez-nous, 60% de la flotte mondiale est sous pavillon de complaisance. Pourquoi est-ce qu'on va chercher ces pavillons de complaisance de 30 pays à peu près ?
Pour des questions financières, des questions d'économie. Les règles qui s'appliquent, toutes les lois qui s'appliquent sur un bateau sont les lois du pavillon.
Donc, quand il n'y a pas de loi salariale, une protection
voilà,
très faible,
c'est ça. Pour s'affranchir d'un minimum salarial, par exemple, en France, on utilise un pavillon différent. Voilà, c'est ça le...
Donc, c'est quand même un monde ultra-libéralisé. Quand vous dites mercenaire, le mot est fort.
Alors, j'utilise le mot mercenaire. On entend quelquefois le mot esclave. Alors, je le réfute. Il existe à l'heure actuelle des esclaves dans certaines parties du monde qui correspondent à des esclaves, c'est-à-dire sans liberté. Un marin est un mercenaire en ce sens qu'il peut choisir d'embarquer ou de désembarquer. Il a un passeport et il a un salaire. Alors on peut discuter, son salaire est-il bon ou pas, les conditions de travail sont-ils satisfaisantes ou pas, mais il lui reste la liberté de refuser ce travail. Donc, c'est pour ça que j'emploie le mot mercenaire et non pas esclave. Le problème est un peu plus complexe parce que la plupart des marins viennent, les premiers pays, c'est les Philippins, après Russes, Ukrainiens, Indiens, Chinois, Indonésiens.
Vous dites que 50% sont asiatiques, donc ?
Ça doit être à peu près, oui.
25% viennent d'Inde et après, c'est d'autres
Alors,
nationalités.
Russes, beaucoup Ukrainiens les pays de l'Est. Aussi, beaucoup.
Le salaire minimum, 1500 euros, dites-vous ?
Le salaire minimum proposé par... dans ce monde ultralibéral, il existe des systèmes de réglementation qui sont aussi très fortes et très intéressantes. Notamment, une confédération syndicale, ITF, connue de tous les marins, qui défend les intérêts des marins partout dans le monde. Et c'est un réseau mondial qui fonctionne bien et que je fais fonctionner, je ne sais pas si on aura le temps de l'expliquer. Voilà, donc ITF propose un salaire minimal de l'ordre de 1500 euros. Je dis c'est de l'ordre de, je n'ai pas le chiffre exact, hein, de l'ordre de 1500 euros. Et un certain nombre d'armateurs préfèrent avoir un accord avec le syndicat pour être sûr d'être en paix dans tous les ports du monde et payer les marins ce salaire minimum.
Ce qui est intéressant quand on vous lit, donc on découvre un monde, tout ce monde qui est donc le sang de l'économie mondialisée, comme vous dites, on se rend compte que quand on fait nos courses dans un supermarché, eh bien derrière il y a tous ces hommes en fait qui travaillent, j'allais dire qui cavalent, en tout cas qui naviguent aux quatre coins de la planète, qui font parfois plusieurs fois le tour de la planète, et en même temps, pour beaucoup c'est une fierté. Ils gagnent bien leur vie, ils font des sacrifices pour leur famille, parfois leur famille élargie. Parlez-nous de la fierté un peu de ces marins et des raisons pour lesquelles en fait ils aiment leur métier.
Alors, le premier point, c'est que un marin d'un pays lointain, son salaire va être en gros deux fois moindre qu'un salaire européen, mais souvent quatre fois plus important qu'un salaire de son propre pays. Du coup, le marin est heureux d'avoir un salaire bien meilleur que celui qu'il gagnerait dans son pays. Ceci dit, la France, par exemple, à Marseille, importe du pétrole, c'est le premier port français d'importation de pétrole. La France tient à ce que les marins qui sont à bord de ces bateaux et à un niveau technique satisfaisant. Elle n'a aucune envie d'avoir une marée noire à Fos-sur-Mer. Du coup, les règlements internationaux exercent un contrôle extrêmement précis sur les écoles maritimes, y compris à l'autre bout de la planète. Elles sont certifiées au niveau mondial.
Ce qui veut dire que, par exemple, un Philippin, quand il fait une école de la marine au long cours, vous dites que dans son pays, c'est quelqu'un. Ce sont des études qui sont très valorisées.
Oui, c'est quelqu'un. Ce sont des écoles donc reconnues au niveau international et avec un système de validation, revalidation de ces certificats très régulièrement. Ils passent une partie de leurs vacances à mettre à jour leurs certificats avec des cours complémentaires. Tout cela leur coûte cher, mais ce sont des bons professionnels.
Racontez-nous la vie d'un marin à bord d'un de ces géants de la mer. À quoi ça ressemble ? Donc ils partent combien de mois en mer comme ça ? Et à quoi ressemble leur quotidien ?
Un Philippin, le contrat moyen en général est de l'ordre de 9 mois.
Donc ça veut dire 9 mois loin de sa famille.
9 mois loin de sa famille. Je rencontre couramment des marins qui, en 9 mois, n'ont jamais le temps de descendre du bateau parce que les escales sont trop courtes, les ports modernes sont trop loin des villes, les contraintes sont trop fortes. Donc ces travails 7 jours sur 7 à bord d'un bateau, 24 heures sur 24, on est lundi matin.
Oui, enfin, les marins ne travaillent pas 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Non, mais
il y a des roulements.
Il y a des roulements, mais souvent, ils ne se rendent pas compte si l'on est dimanche ou pas.
Parce qu'eux travaillent tous les jours.
Oui.
D'accord. Oui. Au Panama, il n'y a pas de jour de repos. On travaille 7 jours sur 7, c'est ça?
Non, ce n'est pas au Panama. Sur les bateaux, le bateau est une usine qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc, pendant les mois de contrat, un cuisinier, il travaille 7 jours sur 7 pendant ces 9 mois de travail. J'ajoute que les marins ne se sont pas choisis. Un bateau, c'est... les plus petits bateaux, 6 marins, les plus grands, peut-être 25 marins. Ils ne se sont pas choisis. Ils sont de... On peut rencontrer jusqu'à 10 nationalités différentes sur un bateau. Et ils sont attelés à une tâche qui est vitale pour eux. Il faut que le bateau arrive à bon port.
À propos de leur travail, on a un sentiment contradictoire à vous lire et à parcourir ces lettres de mer et paroles de terre, donc, qui est le sous-titre de votre livre, qui s'appelle « Marin », paru aux éditions Marine. À la fois, vous dites que c'est des grands professionnels, des gens qui ont un sens de leur travail, et puis un travail qui est quand même... qu'il faut bien faire, quoi, et parfois fort compliqué. Et pourtant, souvent, quand vous les raccompagnez au bateau, à vous lire, ils poussent des soulagements, enfin des grands soupirs, pas du tout de soulagement en l'occurrence, pardon, disant je retourne en enfer, back to hell. C'est vraiment l'enfer, ce type de travail?
Alors, l'enfer, bon, back to hell, c'est une parole de marin, effectivement, que j'ai entendue. Je ne dirais pas enfer, mais conditions de vie qui sont quand même extrêmement prégnantes, hein, puisque ils passent donc des mois et des mois loin de leur famille. Je rappelle que la plupart des bateaux, même il y a des changements, n'ont pas Internet. Donc, quand le bateau quitte l'Australie pour aller en Europe et qu'il ne va pas naviguer 40 jours, c'est 40 jours sans communication Internet avec la famille. Donc, la première chose au port va être d'essayer de trouver...
Justement, racontez-nous, quand ils arrivent au port, il y a bien des personnes qui montent à bord et puis il y a vous, souvent avec votre grand sourire et puis votre croix. Ils vous reconnaissent puisque donc vous faites partie d'un réseau d'aumôniers aux quatre coins du monde. Souvent, votre visite est la bienvenue, même s'ils sont en train de travailler. Vous allez les voir, vous les saluez, et puis après, vous les prenez dans une camionnette, c'est ça? Et vous leur proposez de venir au Seaman's Club, en tout cas, c'est quand vous étiez à Marseille.
À Marseille,
En quoi consiste votre rôle?
Alors, de permettre que l'escale leur permette de sortir un minimum du bateau, de leur univers de travail. Donc, à la montée, j'ai un casque, c'est réglementaire, avec l'insigne, le logo Stella Maris. Tous les marins connaissent. Souvent, je suis sur le quai, le marin me voit en haut de l'échelle de coupé, et je leur dis « Ah, Stella Maris, Seaman's Club ». Ils m'ont déjà reconnu simplement au logo, parce que je fais fonctionner ce réseau mondial de l'Église. Et ça, c'est une façon de vivre l'Église universelle.
Donc un bonjour, quelques discussions, et éventuellement vous les emmenez
À bord, selon la durée de l'escale et la disponibilité des marins et leurs désirs, ça peut être une simple visite, brève, quelques cartes téléphoniques ou quelques cartes internet.
Quelques mots échangés dans un anglais international.
Où on ne se comprend pas toujours. Dans beaucoup de pays, ce que je faisais à Marseille-Fos, les emmener au foyer des marins. Alors, le port de Fos, du premier au dernier bateau, c'est une zone, en fait, avec 7 zones portuaires qui représentent 50 km du premier au dernier bateau. Le marin seul ne peut aller nulle part. Tout est trop loin.
Ce qui veut dire que parfois vous faites des centaines de kilomètres en une journée?
Alors je ne sais plus combien on faisait de centaines de kilomètres par jour pour aller chercher les marins le soir et leur permettre de passer 2 heures au foyer où ils pouvaient acheter un souvenir.
Qu'est-ce qu'ils font au foyer? Alors à quoi ça ressemble un foyer?
Vous dites que un lieu sympathique et chaud.
2 heures de visite pour eux, c'est une bouffée d'air extraordinaire.
Quand un marin dit « ça fait 6 mois que je n'ai pas pu sortir du bateau, là j'ai 2 heures, est-ce que je peux aller au foyer ?» on a du mal, nous, à se rendre compte de ce que c'est que passer 2 heures quelque part. Donc, première demande des marins, communication autrefois téléphone, maintenant Internet.
Donc à bord, ils n'ont pas la possibilité d'appeler ?
Sur la plupart des bateaux, si, ils peuvent, en général, ils ont accès au téléphone satellitaire, extrêmement cher. En cas d'urgence, ça peut permettre le contact. Peu de bateaux, même si ça progresse, ont Internet à bord pour les marins. Donc la première demande, c'est communication. Après, c'est d'acheter un souvenir. Quand j'étais à Marseille, c'était terrible pour les Marseillais, mais il fallait vendre, puisqu'ils étaient en France. Donc il fallait vendre des tours Eiffel et du parfum. Donc j'étais un prêtre vendeur de parfums. Il n'y en a peut-être pas beaucoup dans le monde. Voilà, je vendais des parfums, une bonne bière, et à Fos, une chapelle où ils pouvaient avoir... participer à la messe s'ils le désiraient.
Est-ce qu'ils sont souvent religieux, ces marins ? 50% d'Asiatiques, on sait que la proportion de chrétiens est très faible en Asie. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de travail de ce côté-là ?
Alors, premièrement, un bateau est un espace clos, fermé, et dont le but vital, pour, non seulement pour l'armateur, mais pour les marins, est d'arriver à bon port. Donc, il y a deux sujets sur lesquels les marins doivent être réservés, qui sont la religion et la politique.
Voilà, comme dans toute famille, c'est un adage familial. Si on veut voilà. que la famille aille bien, il ne faut pas parler politique et religion à table. C'est...
Voilà, donc on est dans ce cadre-là. Ceci dit, il y a extrêmement peu de bateaux dans lesquels on ne va pas trouver un signe religieux.
Mais vous, votre mission, c'est quand même aussi de... un moment de leur faire cette proposition. Alors, est-ce qu'ils sont demandeurs ?
Oui,
comment
mais
ça se passe ?
La première chose, hein, je vais sur le bateau, la première démarche, c'est accueil des marins. Hein. Welcome to France. How are you ? Comment allez-vous ? Point. Il m'est arrivé qu'un marin me dise, c'est la première fois depuis 6 mois qu'on me pose la question. Donc ça, c'est le premier point. Après ça vient une démarche religieuse, hors laïcité française, de but en blanc. Immédiatement, je dis, je suis prêtre catholique. Je le montre éventuellement. Et à partir de là, s'ils veulent une démarche religieuse, ça peut être de tout style. Prendre un chapelet que j'offre, demander une bénédiction.
Donner des images aussi.
Des
images, des stylos.
Entendre des confidences. Oh, moi, la religion, c'est pas mon fort, mais merci de la visite. Voilà.
Parfois bénir aussi. Vous dites que parfois vous bénissez des bateaux. En tout cas, ça arrive, non ?
Bénir des bateaux.
Célébrer des messes quand il y a des décès aussi à bord.
Ou célébrer des messes.
Arnaud de Boissieu, j'aimerais que vous nous parliez de l'importance de la parole, parce que à lire donc cet ouvrage, alors je l'ai pas cité, je le ferai un petit peu plus tard, donc Marin, lettres de mer et paroles de terre. Ces marins, enfin ce qui est frappant, c'est que votre métier, quand on est prêtre, c'est d'être d'abord serviteur de la parole. Vous les accueillez avec cette parole, Welcome in France, how are you? Vous dites que souvent votre sourire, le fait que vous vous intéressiez à eux, que vous posez cette question, ils disent que ça leur fait chaud au cœur. Et puis j'ai lu aussi, et c'est ce qui transparaît à travers toutes les lettres de ce livre, l'importance de recevoir des lettres. Quand on ne reçoit pas des lettres et que l'on est marin comme ça, parti 6-9 mois, à un moment, il y a une expression très forte, vous dites que parfois, les marins, ils sont comme des chiens qui attendent sous la table qu'on leur jette un peu de nourriture.
Oui, ça,
sans vie, sans parole, pas de vie.
Alors, ça, c'est une... cette expression est celle d'un marin, dans une lettre, à une époque... quand je suis arrivé en 2000 à Marseille, on écrivait encore des lettres en papier. J'ai vu la disparition des lettres en environ 6 ans au foyer de Port-de-Bouc. À partir de 2006, les lettres ont pratiquement disparu, remplacées par téléphone ou Internet. Ceci dit, c'est le même principe, hein, d'entrer en contact, donc d'avoir une parole avec la famille, de façon classique. Combien de fois j'entends... demande à un marin, t'es marié, oui, t'as des enfants, oui, ben le dernier, un fils qui est né il y a 15 jours, quand est-ce que je le verrai ? Dans 6 mois. Donc il y a tout ce contact.
Vous avez cette phrase comme ça, vous racontez dans une de vos lettres, je crois, un jour au foyer des marins, quelqu'un vous fait cette remarque. Ne vois-tu pas qu'en fait, quand ils se téléphonent, ils font l'amour au téléphone. Alors, c'est à prendre au sens figuré. Avant, je ne le croyais pas, mais maintenant que je suis marin, je te jure que c'est possible. Regarde-les bien, ils sont en train de faire l'amour tellement ils sont heureux, en fait, de se parler, oui, d'échanger et de livrer comme ça leur cœur. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver pour continuer à parler de ces marins et des migrations. C'est un thème fort cher au pape François, qu'on a parfois du mal à comprendre. Vous nous disiez au début de cette émission que ces marins sont considérés par le Vatican comme des migrants. Ils font partie du dicastère qui leur est dédié. On va donc en parler dans quelques instants. Je rappelle le titre de votre livre, « Marins, lettres de mer et paroles de terre » paru aux éditions Marine.
Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Arnaud de Boissieux, aumônier des marins au long cours. C'est donc, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes donc avec vous, vous êtes prêtre de la Mission de France et aujourd'hui donc aumônier du port de Casablanca, après avoir été aumônier du port de Marseille. Vous êtes aujourd'hui en poste donc depuis 7 ans à Casablanca, après avoir passé 12 ans à Marseille. Votre vie est donc de fréquenter des hommes de toute nationalité, venant du monde entier ou presque, parce qu'on a l'impression que quand même il manque souvent les pays dits occidentalisés, hein, les marins français et américains sont peut-être moins nombreux que les marins philippins et autres. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ces migrants. Le pape François, c'est donc un de ces grands leitmotivs, parfois mal compris de certains chrétiens, en tout cas de certains chrétiens occidentaux. Je rappelle donc le 8 juillet 2013, son premier voyage pontifical, c'était donc à l'île de Lampedusa, entre la Sicile et la Tunisie, pour demander aux Européens d'ouvrir leurs portes. Qu'est-ce que ça fait de passer, depuis maintenant presque 20 ans, si ce n'est pas plus, votre vie au contact de ces hommes que vous considérez donc comme des migrants ?
Alors, ce n'est pas moi qui les considère comme des migrants. Hein, donc, je pense que d'un niveau, au point de vue sociologique, ce sont des travailleurs migrants, c'est-à-dire qui pour des raisons professionnelles, passent une bonne partie loin de leur pays d'origine et loin de leur famille. On a souvent, quand on utilise le mot migrant en France, on a plutôt en tête ceux qui essaient d'entrer de façon illégale en France à la recherche d'une vie meilleure. Il y a aussi toute une part importante de travailleurs migrants qui vont pour un temps travailler loin de chez eux dans un autre pays.
Mais qu'est-ce que ça vous fait comprendre de l'importance de la crise migratoire et surtout de l'importance pour les chrétiens de se rendre présent à tous ces migrants? Qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs qui ont un peu du mal avec ce discours du pape François?
Alors, il y a... Justement, d'abord, de bien garder en tête que migrant ne veut pas dire forcément situation illégale, traversée de la Méditerranée du sud vers le nord sur des embarcations de fortune. Nous ne pouvons vivre que grâce aux travailleurs migrants que sont les marins. Sans travailleurs migrants dans le monde maritime... Il n'y a plus de pétrole en France. Voilà. Donc, élargissons notre vision de la migration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les migrants sont toujours dans des situations relativement difficiles. Simplement par le fait d'être loin de leur pays et de leur pays d'origine et de leur famille. Et donc, quand le pape parle d'être présent aux périphéries, toute migration est, par définition, j'allais dire, une périphérie.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est aussi un petit peu des enfants gâtés, nous qui vivons grâce à toutes ces migrations, certes choisies, mais quand même relativement violentes, quand même à vous entendre, hein, c'est quand même pas une partie de plaisir que de faire ce genre de métier. Est-ce que vous voyez pas l'envers du décor de notre monde occidental et de nos sociétés dites développées et par moments, il n'y a pas quelque amertume à voir cela, à avoir une certaine, à minima, naïveté de notre part?
Alors, je n'irai pas jusque-là, personnellement. Notamment chez les marins, il y a aussi une sensation de liberté. Je me souviens ce jeune capitaine russe sur un bateau qui était saisi, donc en situation très difficile au port de Fos, et qui disait « Je suis un homme libre, personne ne peut le comprendre, qui n'a pas vécu ma vie. » Alors qu'il était, son bateau était dans une situation extrêmement difficile. Donc il y a aussi une fierté humaine du travail bien fait
cette fascination aussi pour le monde de la mer. Hein, il y a une préface de François-Régis Hutin, si je ne me trompe pas, c'est le grand patron de West France, hein,
oui.
Qui laisse entendre que le marin, en fait, ne sait pas n'est jamais complètement là où il est. Quand il est en mer, il rêve de la terre. Quand il est à terre, il rêve de repartir. Il y a comme le rêve d'une folle liberté dans la vie de marin.
Oui, oui, oui.
Alors, parlez-nous un peu plus du pape François. J'aimerais qu'on finisse cette émission en parlant de son voyage au Maroc. Il est donc venu au Maroc, c'était en mars dernier. Vous dites que le pape a eu la bonté de venir dans cette périphérie qu'est le Maroc. Pourquoi cette expression?
Alors, périphérie parce que la situation religieuse au Maroc, le Maroc est un pays avec une religion d'État, l'islam. En première approximation, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en première approximation, on peut dire qu'il n'y a pas de liberté religieuse au Maroc. Tous les Marocains sont musulmans de par naissance et n'ont pratiquement, une petite nuance, mais pratiquement pas le droit de changer de religion. Alors, à côté de ça...
Le ramadan est obligatoire, vous me disiez.
Le ramadan... est obligatoire.
On comme peut si être... tout le monde était obligé de faire le... Enfin,
le ramadan est obligatoire pour les musulmans. Un Marocain ou une Marocaine peut être mis en prison pour fumer une cigarette dans la rue en période de ramadan.
Donc pas de liberté de religion.
Pas de liberté
ça
de
veut
religion.
Dire que quand on est musulman, on ne peut pas devenir chrétien?
Pratiquement pas.
C'est très compliqué.
Petite nuance.
On risque quoi? On risque la prison?
Non, on risque... La première chose, c'est d'être rejeté par sa propre famille. On ne va pas être mis en prison à condition d'être très discret, mais rejeté par sa propre famille. L'univers mental marocain est que la religion, c'est l'islam.
Donc pas de liberté de religion, mais une liberté de culte, par contre.
Alors, liberté de culte, c'est-à-dire que les étrangers sont complètement et entièrement libres de pratiquer leur religion. Nous avons beaucoup plus de liberté au Maroc que dans probablement beaucoup de pays d'islam. Les églises sont pleinement ouvertes. Hier, à Casablanca, il y avait au moins 800 personnes dans l'église de Casablanca pour la messe de dimanche. Je pense que beaucoup d'églises de France aimeraient en avoir même un petit peu moins.
Alors pourquoi est-ce que vous dites que c'est une périphérie le Maroc? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la visite du pape François? Vous l'avez vécu d'une certaine manière de l'intérieur, celle-là, même si peut-être vous ne faisiez pas partie de l'avion pontifical. Dites-nous quelques mots de cette visite du pape François.
C'est une périphérie parce que le nombre de catholiques est de quelques milliers de migrants. La majorité, ce sont des étudiants d'Afrique noire, subsaharien, qui sont accueillis au Maroc pour des études, plus quelques autres, quelques Français expatriés, etc. Mais on est quelques milliers de chrétiens au Maroc, donc une église minuscule, avec interdiction, de par la loi, pour le coup, de faire du prosélytisme. De toute façon, le pape nous a rappelé que l'église ne grandissait pas par prosélytisme, mais par en devenant celle. Il ne faut pas être forcément nombreux, mais avoir de la saveur. C'est ça que le pape nous a demandé.
Comment est-ce que les Marocains ont vécu ce voyage du pape François? Ça sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous avez eu autour de vous comme retour, comme écho?
Alors, je pense que le pape, le but de la visite au Maroc était de montrer qu'il existe d'autres religions, en l'occurrence l'islam, avec lesquelles on peut discuter. La visite du pape au séminaire des imams est pour ça emblématique.
Eh ben, merci beaucoup Arnaud de Boissieux. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Marin, lettres de mer et paroles de terre. Vous êtes aujourd'hui donc aumônier du port de Casablanca. C'est un livre paru donc aux éditions Marine. Le co-auteur est Roland Doriol. Je finirai en lisant juste ce passage. Quand je monte l'échelle de coupé, quand le marin de garde me demande qui je suis, il me faut lui répondre que je ne m'occupe ni du bateau, ni de son ravitaillement, ni de sa marchandise, mais seulement des marins. Comment faire passer le message, je vais y arriver, au hasard des langues simples, en pointant ma jolie petite croix, langage universel. Merci beaucoup Arnaud de Boissieux d'être venu. Vous êtes aussi donc à Toulouse à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, puisque cette année ce sont donc les chrétiens de Malte qui ont rédigé les intentions de prière, et donc ils se sont dit que c'était une bonne manière que de parler un peu de cette zone de la Méditerranée, de vous inviter. C'est un peu tiré par les cheveux, et du coup j'ai du mal à m'en sortir, mais en tout cas tout le monde sera heureux de vous entendre ce soir. Rendez-vous ce soir à 20h à l'église d'Aucanville. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h, ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.